Alors j'aimerais voir une deuxième partie, il y en aura d'autres, hein, sur ce thème « L'avenir est en Dieu » avec le livre d'Esther. On avait déjà vu une première partie, je vais faire un rappel. Mais on va lire le texte qui va un petit peu nous attirer notre attention ce matin et nous intéresser. C'est le chapitre 3 donc, du livre d'Esther. Chapitre 3 du livre d'Esther. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédata, la Gagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant Aman. La première partie a attiré notre attention sur le fait que il y avait et il y a à ce moment-là pour Esther une réalité de captivité. Et petit à petit, elle va parvenir à la royauté. Nous avons beaucoup insisté là-dessus. Et c'est Dieu qui a dirigé les choses, bien que, je le rappelle, dans ce livre d'Esther, on n'y voit pas le nom de Dieu, mais on y voit sa présence. Et j'ai appuyé sur ce point de la captivité à la royauté pour vous montrer, mes frères et sœurs, que nous sommes appelés à être toujours vainqueurs. Il est important de veiller, et ça je le rappelle aussi, nous l'avons vu, à entretenir notre vie spirituelle. Il est important de veiller à entretenir la pureté de nos cœurs, et puis de ne jamais oublier de nourrir notre foi avec la parole de Dieu. À un moment donné, j'ai pris l'exemple également du prophète Élie, qui a vécu un miracle marquant quand il est sur le mont Carmel. Mais en définitive, quand bien même il va vivre un miracle marquant dans son ministère de prophète, il va vivre également un moment de dépression profonde, juste après. Mais Dieu va le relever et va lui donner d'être de nouveau vainqueur. Ceci nous montre que le miracle ou les miracles ne remplacent pas la nourriture dont a besoin notre âme. Le prophète Élie, pour continuer sa mission et sa route vers l'avenir que Dieu lui proposait, pour lui et puis pour le peuple, il a fallu qu'il mange ce que Dieu lui a préparé par l'intermédiaire de l'ange, il a fallu qu'il boive, et quand il a fait ainsi, il a retrouvé des forces. Esther va arriver dans une position où elle va pouvoir avoir une position de force, mais il va falloir qu'elle se nourrisse de tout ce que Dieu lui a déjà accordé et va lui accorder à elle et à tout le peuple. Pour aller un peu plus loin, selon le texte que nous venons de lire et notre thème, l'avenir est en Dieu, avec ce livre d'Esther, c'est que il y a une chose que je réalise, c'est que si nous voulons entrer dans l'avenir que Dieu a prévu pour nous, il nous faut une position, et j'ai dit bien « il faut », et je souligne le mot, c'est un impératif, il nous faut de l'humilité. C'est un ingrédient, excusez-moi, spirituel, indispensable. l'humilité. On trouvera toujours sur notre route des menaces venant de l'adversaire de nos âmes, des inquiétudes. Mais le propre de l'avenir est bien que nous ne le connaissons pas, mais par contre, notre Dieu le connaît et le maîtrise. Quand Esther, nous, c'est écrit, on le lit en quoi ? Même pas, moi je le lis en 5 minutes, ce livre. Mais ça n'a pas duré 5 minutes. Et quand Esther se retrouve captive, qu'elle se retrouve dans le harem de ce roi Assuérus, je me mets à sa place. Elle aurait pu normalement se dire, ben Dieu m'a laissé tomber. Pas du tout. Non pas que Dieu est d'accord à ce moment-là, même à ce moment-là avec un système de harem. Mais n'oublions pas qu'elle n'est pas en Israël. Elle est captive. Elle est donc prise dans un système malgré elle, mais Dieu s'en sert. Et cette femme, je remarque, non seulement chez elle, mais c'est normal parce qu'elle a été au contact, et on va le souligner, on vient de le lire, elle a été au contact de Mardoché. Et je peux que comprendre qu'au contact de Mardoché, qui est devenu son père adoptif, excusez-moi, n'a pu que recevoir de cet homme cet enseignement d'humilité et d'attachement à Dieu. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, quand on a lu les versets ou les deux versets, les deux premiers versets du chapitre 3, on se rend compte que, en définitive, ce n'est pas Mardoché et ce n'est pas Esther qui sont dans une position de vainqueur. Ils ne sont pas ces deux personnages dans une position dominante. Mais ils sont, au contraire, dans une situation compliquée, dominée, écrasée, malmenée. Et nous remarquons que c'est plutôt le méchant qui a le pouvoir. C'est lui qui a la puissance. Verset premier, nous l'avons vu, le roi Assuérus, ce roi perse, il va faire monter au pouvoir Aman. Et il va donc élever cet homme en dignité. Il va le placer sur un siège au-dessus de tous les autres chefs qui étaient dans la cour de ce roi Assuérus. Ce qui veut dire que, si je prends une image que tous peuvent comprendre, Aman, c'est le premier ministre, tout simplement, du roi Assuérus. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir, une autorité, une parole qui a une puissance. Donc, à vue humaine, nous pouvons supposer que cette ascension au pouvoir pour Aman a été due, pourquoi pas, à des mérites. Tout n'est pas dit, mais pourquoi pas. Peut-être elle a été due à des compétences manifestées par cet homme Aman. Alors que Esther, elle a conservé toute sa réserve. Elle a conservé toute sa discrétion. Et qu'elle était restée sous la dépendance de Mardoché, dans l'humilité. Et il semble que le contraire se soit produit pour Aman. Lui, il n'est pas resté dans sa réserve, il n'est pas resté dans l'humilité. Il a été élevé à un certain rang et il va manifester, on va le voir au fur et à mesure, certainement des autres parties du développement de ce thème, mais il va en user. Et il va en user pour arriver à ses fins. Derrière, ce n'est pas Dieu qui pilote cet homme, bien que, quelque part, il y a des choses qu'on peut souligner comme étant dirigées par Dieu, mais malgré tout, le diable va utiliser ou essayer d'utiliser Aman pour détruire le peuple d'Israël. Parce que le diable sait qu'en détruisant le peuple d'Israël, il pourra éventuellement empêcher la venue de Jésus. Donc, elle est restée sous la dépendance. Alors, il est vrai que l'ordre de ce roi Cyrus était que tous les genoux fléchissent quand Aman passait quelque part. C'était l'ordre. Et je vous rappelle que c'est un roi perse, et quand il y a eu une loi, celle, dit la Bible, des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. Donc, tous les genoux devaient se prosterner devant lui. Et nous avons lu que, quand il passe devant Mardochée, Mardochée refuse d'obéir à cette loi. Il refuse d'obéir à ce commandement royal. Non pas par insubordination, non pas par rébellion, pas du tout, mais tout simplement parce que Mardochée, et c'est ce qu'avait appris Esther, par une humble obéissance à un ordre supérieur. La Bible dit, serait-ce dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 10, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu ne te prosterneras pas devant quiconque d'autre que l'Éternel, que le Seigneur. Il y a là un commandement, il y a une direction spirituelle. Et il faut à la fois de l'humilité, mais il faut aussi de la force spirituelle. Et quand Mardochée ne se prosterne pas devant Aman, on pourrait dire, c'est une folie. Non. Oui, c'est une folie qui est calculée. Mais malgré tout, eh bien, Mardochée reste attaché à ses valeurs. Il sait que Dieu ne le laissera pas tomber. En définitive, si ça avait été une révérence, tout à fait civile, de politesse, de bonne éducation, Mardochée n'aurait pas refusé. Vous comprenez? Il n'aurait pas refusé. Non, mais le texte précise non pas une révérence, par politesse, par bonne éducation, n'est-ce pas? Le texte nous dit se prosterner. Le mot est là. Se prosterner. Se prosterner, c'est pas ça. Se prosterner, ça veut dire ce que ça veut dire. Et même, selon les Hébreux, se prosterner, c'est même pas se mettre à genoux. Se prosterner, dans la pratique hébraïque, c'est se jeter à terre, le ventre à terre, couché, totalement le visage contre terre. Mardochée, jamais, il n'aurait fait cela, tout simplement parce que son seul désir, c'est de rendre hommage au Dieu créateur des cieux et de la terre. Il est donc question d'une véritable adoration. Tu n'adoreras Dieu seul, lui seul, aucun d'autre. Et ça me fait penser à un autre exemple. Dans le livre du prophète Daniel, et nous avons à peu près la même chose, la même histoire quelque part qui se répète. C'est le roi Nebuchadnezzar qui va faire fabriquer une statue d'or haute de 60 coudées, large de 6 coudées, une grande statue, afin que, eh bien, les gens de la ville, de son royaume, se prosternent devant. Un signal donné, bien sûr. Et puis, les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, vont refuser de se prosterner devant cette idole. Pourtant, c'était l'ordre du roi. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas non plus, eh bien, à laquelle il ne fallait pas s'opposer. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner et d'adorer la statue d'or. Ils ont refusé. Mais ils vont être dénoncés. Ils vont être dénoncés. Ils vont dire, voilà, les trois hommes, là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne se prosternent pas devant ta statue au roi Nebuchadnezzar. Alors il va être irrité, il va être furieux. Et il va demander à ce que l'on amène les trois hommes. Et il va prendre la parole et leur dire, voilà, on m'a dit que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Alors il les met au défi. Il leur dit, maintenant, quand les instruments vont jouer, prosternez-vous. Et les instruments se mettent à jouer et ils ne vont pas se prosterner. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être jetés, tout simplement, eh bien, dans la fournaise chauffée, fournaise ardente chauffée cette fois plus. Mais avant cela, ils le savent. Et ils vont dire à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, sache une chose, c'est que de toute manière, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ces hommes sont comme Mardoché. Ces hommes sont comme tant d'autres que je découvre dans l'Écriture. Ces hommes devraient être donc des exemples à suivre. Il y a tellement de choses devant lesquelles nous pouvons nous prosterner, qui se présentent à nous pour que nous nous prosternions devant. Tellement d'objets, d'idées, de doctrines, de personnages. Mais mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est de rester attaché à celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, notre cher Sauveur et Rédempteur. Alléluia. Oui, de toute manière, on connaît l'issue. Shadrach, Meshach et Abednego ne vont subir aucun dommage, aucun mal, parce que Dieu sait protéger ceux et celles qui lui font confiance. Mes frères et sœurs, gardons justement à l'esprit cette attitude d'humilité. Pour entrer dans le plan de Dieu et y rester, il faut cette attitude d'humilité, de soumission à Dieu. Le Seigneur n'est pas, je dirais, il n'est pas impressionné par notre curriculum vitae spirituel. Il n'est pas impressionné par tout notre côté, vous savez, humain, où l'on voudrait en mettre plein la vue. Il n'est pas impressionné par cela. Par contre, ce qui impressionne Jésus, c'est ce qui se passe intérieurement quand il sait qu'il peut compter sur nous, parce que nous allons toujours le mettre à l'honneur. Parce que c'est lui qui va rester au centre de mon cœur, de ma vie, de mon âme, de mon engagement et de ma consécration. Malgré tout ce qui peut être autour et nous dire tout à fait le contraire, nous restons fixés. comme Shadrach, Meshach, Abednego, Mardoché, Esther, les yeux fixés avec humilité, avec soumission vers Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a, il y aura toujours, malheureusement, ceux qui fléchiront les genoux dans une direction où il ne faut pas. Mais il y aura, et il y a ceux, et il y aura encore ceux et celles, que Dieu soit béni, qui fléchiront encore et encore les genoux devant le Père, devant le Seigneur. L'apôtre Paul dira, Éphésiens chapitre 3 verset 14, à cause de cela, il parle de ses tribulations qu'il est en train de vivre, c'est ce que nous montre le contexte. Il dit, à cause de cela, à cause de mes tribulations, à cause de mes tribulations, il dit pas à cause des bénédictions, hein, à cause de mes tribulations, je fléchis les genoux devant le Père. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans les milieux chrétiens qui sont les nôtres dans ces temps que nous vivons, dans ce 21e siècle, j'aurais plutôt envie de dire, à cause des bénédictions, je fléchis mes genoux, Seigneur. Par contre, quand je ne suis pas béni, ben, tu peux toujours courir. Je le dis simplement. Malheureusement, c'est cela. C'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, la pensée positive, et j'en passe. Non, mes frères et sœurs, si vous voulez suivre le Seigneur jusqu'au bout, il vous faut beaucoup d'humilité. Sinon, vous n'y arriverez pas. Le Seigneur Jésus est notre exemple. Il est allé jusqu'au bout parce qu'il a été humble de cœur. Parce qu'il s'est attaché à toujours regarder vers le Père. Il enseignait tout ce qu'il recevait du Père. Même dans le jardin de Gethsémané, bien sûr, on le comprend, le Seigneur Jésus. Si tu pouvais retirer cette coupe, cette souffrance atroce qui m'attend, atroce, que la croix, à cause de notre péché. Mais Jésus, qu'a-t-il dit? Il a dit, non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Quelle humilité! Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant, il s'est donné entièrement. En définitive, ce que font ces hommes et ces femmes, puisqu'on parle d'Esther et Mardoché, on a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego, j'aurais pu citer l'exemple de Daniel, j'aurais pu citer bien d'autres exemples. Mais ça annonçait celui de Jésus-Christ, par-dessus tout. Mais nous devons continuer à comprendre cela pour entrer dans le plan et dans les plans que Dieu a prévus pour nous à Groyer. Parce que je prêche à Groyer ce matin. Je suis fatigué, mais je sais où je suis encore. Hein? Voilà. Si j'étais à Montpellier, j'aurais dit à Montpellier, etc. Donc, à Groyer, c'est là que Dieu m'a placé. Et je veux réaliser que des tribulations, il y en a eu, il y en a peut-être, il y en aura encore. Est-ce que vous allez continuer, malgré tout, de fléchir les genoux devant le Père ? Il vous a entendu, hein? Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Moi, j'aime pas prêcher un évangile, vous savez, de circonstances. Ça m'intéresse pas. Et puis, de toute façon, si je faisais ça, je serais pas agréable à Dieu. Quand j'annonce l'évangile, et ce matin, j'annonce un message d'édification, mais il y a l'évangile aussi, je dis la vérité. Je dis aux gens, vous voulez servir le Seigneur, vous voulez suivre Jésus, vous voulez donner votre vie à Jésus, vous allez souffrir. Alors, une fois, j'avais dit ça lors d'un message d'évangélisation. Il y a un brave jeune là qui est venu, je ne sais plus, enfin bref, où il était jeune pasteur, il avait besoin encore, comme on apprend tous, c'est bien d'avancer, de progresser, de comprendre certaines choses. Il me dit, oh mais quand vous faites ça, pasteur, les gens ne vont pas se convertir. Ben, je dis, alléluia. Alors, il m'a dit, mince, il ne va pas bien le pasteur, il a de la fièvre. Ben non. C'est facile de dire aux gens, vous vous convertissez, demain, vous ne coincerez plus les doigts dans une porte. Vous n'aurez jamais la grippe, vous n'aurez jamais le gastro-entérite, vous connaîtrez jamais les urgences, tout ira bien, vous n'aurez pas de cancer, vous aurez... Et mes amis, là, ce matin, je dis ça, je l'annonce par voie de presse, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de place. Oui, mais alors le problème, c'est qu'après, il va falloir gérer derrière. Hein, parce qu'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de soumission à Dieu, il n'y a pas tout simplement de cœur transformé. Le Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Parce que j'ai vaincu. J'ai vaincu l'état d'esprit de ce monde et le chef de ce monde des ténèbres, qui est le diable. Je l'ai vaincu. Donc ce qui fait que l'humilité, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force, l'humilité. Moi, les gens humbles m'attirent. Les gens qui se, vous savez, qui se mettent un petit peu au-dessus des autres, moi je connais ceci, et moi je sais cela, et moi, et moi, et moi, et 36 millions de Chinois. Je m'en méfie. Non, il n'y a rien de mieux que l'humilité. L'orgueil, c'est une estime excessive de soi-même. C'est ça la définition. Donc, l'humilité, c'est le contraire. C'est pas se rabaisser, mais je vais aller un peu plus loin là-dessus. C'est au contraire être élevé par le Seigneur. Humilions-nous, humiliez-vous, dit la Bible, sous sa puissante main, et il vous élèvera, lui, le Seigneur, au temps convenable. Alléluia. Il y a donc ceux qui refusent. Béni soit Dieu. Comme Mardoché, de se soumettre à l'erreur, à la séduction du péché, aux fausses doctrines, bien que ceci encourt de grands risques. Il faut le reconnaître. À partir du moment où on ne va pas dans le sens du grand nombre, on encourt toujours des grands risques sur le plan humain. Mais même si on encourt de grands risques de perdre des amis, de perdre certaines attaches, il faut malgré tout faire partie de ceux qui refusent de se soumettre à l'erreur, à la séduction du péché et aux fausses doctrines. C'est ça l'humilité aussi. Et les termes de la Bible décrivent l'attitude de Mardoché avec de riches enseignements qui ont une portée spirituelle extraordinaire. Il ne fléchissait point le genou et il ne s'inclinait pas. Il ne fléchissait point le genou et il ne s'inclinait pas. Et ça dénote chez lui une attitude de fermeté face à la tentation, parce que c'est une forme d'idolâtrie que de faire ainsi, à la tentation de l'idolâtrie. Pourtant, c'est pas facile. Mais il réagit différemment. Donc, tentation d'idolâtrie. D'être là pris dans le piège de l'idolâtrie, de se prosterner, mais il ne va pas le faire. Et Aman, quand il voit cela, il ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout contenté de voir dans cette attitude, à son égard, un simple geste imposé par le protocole, pas du tout. Il a vu cela comme étant une possibilité, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète dans la suite de ce message, une possibilité d'avoir un ascendant contre ces hommes et ces femmes qu'il n'aime pas, c'est donc les enfants d'Israël, et il va vouloir user de son autorité pour arriver à ses fins. La même chose d'ailleurs avait été ordonnée par Pharaon envers Joseph. La différence entre d'un côté Joseph et Esther, écoutez bien, et d'un autre Aman et de taille, vraiment de taille. Les premiers, on y revient, par rapport à l'humilité, sont restés humbles, Joseph, et Esther sont restés humbles. Joseph avait une position élevée. On est d'accord? Aussi importante que celle d'Aman. Mais il est resté dans l'humilité par rapport à son Dieu. Et pareil pour Esther, pareil pour Mardoché. Tandis que Aman, lui, il n'a pas du tout cette attitude-là. Lui, il s'est enorgueilli. Il a saisi cette occasion pour arriver à ses fins. Il est donc important, mes frères et sœurs, écoutez bien ce que je vous dis, de toujours rester vigilant dès que nous devenons chrétiens. Alors, vous n'êtes pas devenu chrétien aujourd'hui. Mais pour être vraiment et toujours dans cette réalité de vie chrétienne, comme Dieu l'entend, non pas comme le monde l'entend, mais comme Dieu et la parole de Dieu l'entend, il faut être profondément vigilant pour rester dans l'humilité afin de ne pas, à un moment donné, alors que petit à petit, peut-être je prends un peu plus d'assurance, peut-être effectivement je vais effectivement apprendre à mieux connaître le Seigneur, à mieux connaître la parole de Dieu, Je vais vivre de belles expériences, je vais vivre des miracles, je vais vivre des choses extraordinaires dans ma propre vie et dans la vie de ceux que je vais côtoyer. Mais il y a un danger. C'est que cette position-là, si je ne veille pas, elle peut me faire tomber dans l'orgueil. Et à petit, quand je tombe dans l'orgueil, et parfois je ne m'en rends même pas compte, eh bien, au lieu de progresser dans l'avenir que Dieu a pour moi, eh bien, je commence à régresser spirituellement. Et moi, peut-être, je ne m'en rends pas compte, mais les autres autour s'en rendent compte. Le pasteur s'en rend compte. On doit rester vigilant dès que l'on est devenu chrétien, puis dès que Dieu, donc, je viens de le dire, nous confie des responsabilités. La tentation de l'orgueil est toujours là, même Jésus y a été soumis. Aussitôt après avoir reçu l'onction, quand vous lisez dans l'évangile de Luc au chapitre 4, du verset 1er au verset 2, Jésus rempli du Saint-Esprit, donc il reçoit l'onction, il est dans la plénitude de l'Esprit, il va être conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Ce n'est pas un lieu très agréable, mais il va y être conduit et il va se laisser conduire. Il aurait pu dire « Non, on ne va pas là-bas ». Mais tant que je suis rempli du Saint-Esprit, on va plutôt dans cette direction. Là-bas, il y a du monde. Oui. Mais le Saint-Esprit, envoyé du Père, sait où il faut piloter, conduire, diriger Jésus. Et donc, Jésus se retrouve dans ce désert et il va y jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Et il ne va pas rester comme ça à attendre. Il prie. Il intercède. Il invoque son Père. Et le diable va venir pour le tenter. Le diable ne loupera jamais une occasion, mes frères et sœurs, de venir vous tenter. L'année 2018 va débuter dans quelques heures. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous durant l'année 2018. Mais je dirais que ce qui va se passer pour vous ne dépend pas du fait qu'on va vous souhaiter bonne année. Non, mais écoutez bien mon raisonnement, parce que je l'ai dit, je suis un peu fatigué, mais je sais où je vais quand même. C'est pas parce qu'on va vous souhaiter bonne année que votre année 2018 va être extrêmement bonne. Vous voulez qu'elle soit bonne, votre année 2018? Je m'adresse à des croyants, hein, je m'adresse pas aux inconvertis. Hein. Parce que les inconvertis, ils auraient envie que je leur dise, vous voulez qu'elle soit bonne, votre année 2018, allez gratter encore à tabac presse tous les tickets qui s'y vendent, quoi. Pour que vous gagniez 1 million d'euros éventuellement. Ah, ça c'est bien, monsieur le pasteur, alors regarde. Super. Non, je m'adresse à des chrétiens. Vous voulez que votre année 2018 soit bonne? Oui. Moi aussi. Hein. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous avez vu, conduit Jésus dans le désert. Je le répète, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de monde dans le désert. Parce que je sache. Je suis jamais allé, mais j'ai vu des reportages. Hein. C'est un endroit qui est sec. C'est un endroit qui est aride. C'est un endroit qui respire la mort. Mais Jésus y va. Et c'est dans les moments où ma vie spirituelle, conduite selon la volonté de Dieu et par l'Esprit de Dieu, dans des endroits ou dans des positions parfois où tout ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne, où tout ne va pas toujours dans le sens dans lequel je voudrais que ça aille. C'est justement là que le diable va venir avec force pour essayer, une bonne fois pour toutes, à me détourner du Seigneur. Mais, le Seigneur est vigilant parce qu'il est toujours humble de cœur. Et il va entendre le diable, alors que Jésus n'a rien mangé. Il a faim, c'est normal. Il dit, écoute, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, ou à cette pierre, pardon, qu'elles deviennent du pain. Excusez du peu, mais quand on n'a rien mangé depuis 40 jours, moi quand j'ai rien mangé, parce que des fois ça peut arriver, mais fatigué, serait-ce une journée, vous me mettez un plat, je vous le dévore, hein. 40 jours. Jésus qui lui dit, le diable qui dit à Jésus, cette pierre, tu peux ordonner qu'elle se change en pain. Effectivement, si Jésus l'avait demandé, c'est ce qui se serait passé. Mais Jésus va lui répondre avec beaucoup d'humilité, parce qu'il est resté, malgré ses 40 jours, vigilant, attaché au Père, au principe du royaume des cieux. Il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur aurait pu réagir avec un certain pouvoir, une certaine autorité qui était la sienne. Oui, tu as raison, je suis Jésus, je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu au milieu des hommes. Pourquoi je vais me laisser aller ? L'aurait pu ? Mais pas du tout. Je m'aperçois que Dieu, parce que Jésus c'est Dieu. Alléluia ! Jésus c'est pas Laurent Lenoir. Non, il faut le rappeler. Jésus c'est pas... Heureusement. Jésus, c'est Dieu. Ce qui veut dire que même Dieu aime l'humilité pour lui-même. Il a pourtant toute autorité, tout pouvoir, toute puissance dans le ciel et sur la terre. Il peut dire une chose et elle s'accomplit. Il peut ordonner une chose et elle existe. Il peut tout. Alléluia. Et là, malgré qu'il puisse tout, il va dire, non. Ma position d'autorité, je peux tout, et le diable le sait, parce que le diable ne peut pas tout ce que Dieu peut. Il dit, non, je reste dans l'humilité, dans l'attachement à la parole de Dieu. L'humilité, elle nous ouvre le chemin d'un avenir béni en Dieu, avec des répercussions pour l'Église, mais aussi pour le monde. L'humilité, c'est un état d'esprit, c'est l'attitude de quelqu'un qui est humble, qui va considérer sans indulgence sa personne, qui est porté à rabaisser ses propres mérites. Celui qui est humble est volontairement modeste. Celui qui est humble, il est volontairement effacé. Il n'est jamais porté à se mettre en avant. Il y a un danger hein, quand on veut se mettre en avant, quand on est quelque part, c'est de s'entendre dire « s'il vous plaît, si vous pouviez laisser la place à quelqu'un d'autre. » Ah mince, ça c'est un peu embêtant. Laissons le Seigneur accomplir son œuvre dans notre vie et ne poussons pas Dieu à vouloir faire les choses comme nous, nous voudrions qu'il les fasse. L'avenir de Dieu est meilleur que celui que vous, vous avez prévu. Je suis fatigué avec des personnes qui disent toujours « mais moi je pense que, moi je crois que ». Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des projets. Mais je crois qu'il faut dire plutôt les choses autrement, dire « je pense que, pourquoi pas, on pourrait faire les choses ainsi, si Dieu le veut ». Voilà, c'est mieux. Pas dire « moi je pense que, puis on va faire comme ça, et puis on va faire ça, et puis on va aller là-bas ». Oh là là, ne faites jamais ça, parce que la plupart du temps j'ai remarqué que ça n'aboutit pas. Dites au contraire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu ne crois pas que on pourrait faire comme cela ? Puis le Seigneur dit oui, pourquoi pas ? Mais moi je te propose autrement. Et là, ça va permettre d'entrer et de demeurer de nouveau dans l'amour de Dieu. Alléluia. De demeurer dans le plan de Dieu. De demeurer dans la grâce de Dieu. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il ne faut pas confondre s'humilier avec le fait de se rabaisser, avec le fait de se dévaloriser, avec le fait de se dévaluer systématiquement. Ce n'est pas de l'humilité, ça. C'est de la fausse humilité. Ce n'est pas ce que fait Jésus. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait Shadrach, Meshach, Abednego. Ce n'est pas du tout ce qu'est en train de faire Mardoché. Non. Ce n'est en rien non plus l'humilité la manifestation d'un quelconque complexe d'infériorité, qui peut parfois même être une manifestation, écoutez bien, cachée d'orgueil. Dire « Oh mais je peux pas, oh je sais pas, oh j'y arriverai pas. » Parfois c'est un problème, mais parfois ce n'est pas un problème. C'est de la fausse humilité, c'est de l'exagération dans l'humilité. C'est-à-dire, je ne vais pas me mettre en avant pour qu'à un moment donné, quand même, on me pousse en avant. Mais seulement Dieu le voit. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend. Si Dieu vous a donné des qualités, je reviens à Groyer. On y est toujours. N'attendez pas. Qu'est-ce que vous attendez? Le millénium? Ça ne se passera pas comme ça. Vous attendez quoi? Votre dernier souffle? Ça ne sera plus possible. Vous êtes en vie, vous avez la santé, vous avez encore des forces, vous avez encore la possibilité d'offrir quelque chose à Dieu. Mais faites-le. Et le message que je prêche ce matin, dans cette deuxième partie de l'avenir est en Dieu avec Esther, quelque part, il tombe parfaitement bien, puisqu'on termine l'année 2017, on va débuter l'année 2018. Vous souhaitez quoi? Moi, je souhaite que l'église de Groyer soit une église où chacun dise « Seigneur, je décide pour l'année 2018 de faire encore plus pour toi. Je me suis peut-être mis en réserve, me suis mis un peu en arrière. Arrêtons de se mettre toujours en arrière. Mais choisissons de laisser plutôt le Seigneur faire son œuvre et d'être ainsi non pas dans une manifestation cachée d'orgueil, parce que Dieu le voit, ou de rechercher systématiquement des compliments. Dieu le voit. Non. Cherchons l'humilité. Comme Mardoché est un homme humble devant Dieu. Oh, devant Aman. Aman, c'est pas un problème. Comme Jésus devant son père, devant le diable. Oh, c'est pas un problème. Comme Shadrach, Meshach, Abednego devant Dieu, devant Nebuchadnezzar, c'est pas un problème. Dieu s'occupe de tous ces gens-là. De tous ces personnages. Il s'en occupe. Moi, ce que je dois choisir, c'est d'être dans le plan de Dieu. C'est de rentrer dans l'avenir de Dieu. Vous avez remarqué, en cette fin d'année 2017, comme chaque année, comme à chaque fin d'année, toutes les revues, qui sont en vente dans les presses, toutes, il n'y en a pas une. Vous avez l'horoscope pour l'année 2018. Alors, vous avez toutes les déclinaisons, hein. L'horoscope français, l'horoscope chinois, l'horoscope ceci, l'horoscope cela. Vous avez l'horoscope de Tartampion, et puis de l'autre, et de l'autre, et de... Ils se contredisent tous, d'ailleurs. Chaque année. Mais ça ne manque pas. Et ça se vend comme des chocolatines. Et les gens sont là. Blum. Ah, côté chance. Ta-ti-ta-ta-ta-ta-ta. Côté amour. Ti-ta-ti-ta-ti-ta-ta. Côté argent. Ti-ta-ti-ta-ti-ta-ta-ta-ta-ta. Côté santé. Ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ta. Ah. Et puis avec des dates, c'est-à-dire du 13 mars au 13 juin, ça va bien marcher. Du 13 juin jusqu'au 14 novembre, ça va être la rasra. Et les gens le croient. Ils disent, chérie, si tu voyais mon horoscope. Oh, oh, oh. Par contre, du 13 mars au 13 juin, par contre, pas de problème. Hein, voilà. Mais les gens y croient. C'est leur évangile. Mais quelle folie! Parce que vous ferez la... Enfin, vous ferez... Moi, j'ai fait l'expérience. J'ai pris quatre revues. Quatre revues différentes, hein. Totalement différentes. Pas du tout du même groupe. Voilà. Quatre groupes différents. Et j'ai regardé quatre signes, le même, hein, sur les quatre revues. Alors, en définitive, si par exemple je ne crois pas au Seigneur Jésus, sur les quatre revues, je vais choisir l'horoscope qui me plaît le mieux. Vous allez toujours être en bonne santé, vous allez gagner de l'argent, vous allez être... Bref, voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ne disent pas la même chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit. Il parle selon la vérité. Et quand il nous invite à avoir de l'humilité, c'est justement dans le sens de lui faire confiance. Quand Mardoché ne se prosterne pas, ne fléchit pas les genoux, n'adore pas Aman, c'est parce qu'il fait confiance en Dieu. Il ne va pas faire confiance en son horoscope. Il ne va pas faire confiance en sa propre personne, en ses capacités. Il ne va pas faire confiance, je ne sais en quoi d'autre, qui est terre à terre. Mais il va faire confiance à Dieu, au Seigneur. Alléluia. 2 Samuel 22-28, je vais arriver tout doucement vers la fin. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Voyez-vous, si quelqu'un ne s'humilie pas devant Dieu quand c'est nécessaire, en reconnaissant sa faute, ses torts et sa culpabilité, alors à ce moment-là, le processus spirituel de croissance s'en trouve stoppé. C'est la raison pour laquelle il y a peut-être là ce matin, et c'est un moment de réflexion, mes frères et sœurs, ne le refusez pas, hein, parce que Dieu vous parle, hein, même si je suis un peu fatigué avec une voix un peu cassée, même si je n'ai pas la même énergie, c'est pas grave, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je vous assure, c'est très important, si ce matin, vous reconnaissez qu'il y a des fautes, des torts, en cette fin d'année 2018, si vous vous sentez quand même encore dans la culpabilité par rapport à certaines choses, ce qui est normal parce que la conscience travaille. Mais il faut revenir à la case départ. Hein. Et la case départ, c'est où? C'est là où la manifestation de l'humilité est la plus forte et la plus expressive qu'elle soit, comme elle ne l'a jamais été, c'est la croix. Si vous avez un autre exemple à me donner, autre que la croix, vous êtes fort. Parce que moi, j'en ai pas d'autre. C'est le plus fort. C'est le summum de l'humilité. Dieu, en Christ, qui se laisse clouer et qui souffre pour notre salut. Donc si j'ai des fautes, si j'ai des torts, si ma culpabilité est là, il ne faut pas que ma croissance se stoppe. Il faut au contraire qu'elle continue. Donc l'avenir, le meilleur, il commence là, à la croix, il revient là, à la croix, afin de vivre le meilleur. Mais il faut de l'humilité devant Dieu. Je cite cela, écoutez. Le fait que Dieu tend la main aux personnes qui suivent des mauvaises voies afin de les en sortir, c'est parce que elles sont dans l'humilité. Le fait que lorsque la main tendue est acceptée, il y a restauration et salut, parce qu'il y a l'humilité. Le fait aussi que lorsqu'il n'y a pas la réponse souhaitée, il y a naufrage spirituel. C'est peut-être parce que là, il n'y a pas l'humilité. Le fait qu'il peut être humiliant d'accepter cette main tendue peut être le fait, justement, qu'il n'y a pas l'humilité. Le fait que cette attitude correspond aux dispositions de cœur auxquelles Dieu prend plaisir, notamment pour un culte qui lui soit agréable, c'est parce que, justement, là, il y a l'humilité. Voyez-vous? Donc, ceci étant dit, on se rend compte que il y a un avenir, mais il y a un avenir dans l'humilité devant Dieu, devant la parole de Dieu, mais dans l'opposition qui est quand même continuellement constante, pour nous amener à sortir de l'humilité et à glisser dans l'orgueil. Gloire à Dieu. Alors je vais pas trop m'étendre, parce qu'on verra d'autres choses une prochaine fois, et je serai certainement en meilleure forme. Je voudrais juste terminer avec ce point. Voilà. Parce que je reviendrai là-dessus par rapport à la situation d'Aman. Si Dieu permet à Satan d'avoir encore un certain pouvoir, c'est aussi pour laisser apparaître les dispositions de chacun envers la vérité. C'est pas compliqué. À comprendre, faut-il l'accepter. à savoir si nous désirons entrer dans l'avenir que Dieu veut pour nous. Est-ce que vous voulez vraiment entrer dans l'avenir que Dieu a pour l'Église de Groyer ? Vous répondez hein, devant Dieu. Est-ce que vous désirez entrer dans l'avenir que Dieu a pour vous ? Déjà, individuellement. De toute manière, quand on a l'impression que Satan parvient à quelques fins, la situation, elle se retourne et elle se retournera toujours contre lui et Dieu est toujours glorifié. Vous avez l'exemple de Job. À la fin, il est écrit que l'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Quand Job, il a fallu de l'humilité, il a fallu regarder au Seigneur, à sa toute-puissance, bref. Quand Job eut prié pour ses ennemis, pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il a fallu une certaine démarche pour que Job soit dans cette position. C'est parce qu'il a décidé, j'insiste, pour entrer dans le plan de Dieu, l'avenir que Dieu a pour lui, il a fallu s'humilier. Il a fallu reconnaître la souveraineté de Dieu. Et il a fallu laisser Dieu agir comme il avait le désir d'agir. Il fait toujours une œuvre qui le trompe, Satan. Exemple de Joseph, il dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Genèse chapitre 50, mais Dieu l'a changé en bien. » Pourquoi ? La suite est intéressante. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et je vous rappelle ce qu'on a vu lors de la première partie avec Esther, c'est qu'à un moment donné, Mardoché lui dit « Qui sait si tu n'es pas arrivé là pour cela ? Pour justement permettre au peuple d'Israël d'être sauvé ? Toi avec et nous avec. » Et mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe avec Job. C'est ce qui passe avec Joseph. Je reviens à l'exemple suprême. C'est ce qui se passe avec Jésus. On en est le fruit. Mais à chaque fois, pour être dans ce plan de Dieu qui est une bénédiction pour soi-même et surtout pour les autres, il faut de l'humilité devant Dieu, nous amener à refuser l'orgueil et à rester dans l'humilité. Alors, je rajoute juste ceci, permettez. Satan n'est pas l'auteur direct. Écoutez bien, hein, Satan n'est pas l'auteur direct de tous les malheurs qui frappent l'humanité. Il y a aussi tous les maux dont les hommes eux-mêmes sont responsables. Non, parce que c'est trop facile de dire c'est la faute du diable, c'est à cause du diable. Je le défends pas, hein, mais permettez-moi de dire que là il y a du déséquilibre. Hein. C'est la faute du diable, c'est ceci, c'est cela. Non, il y a notre part de responsabilité. Dieu nous met devant nos responsabilités. Est-ce que je vais choisir l'humilité ou l'orgueil ? Est-ce que je vais choisir d'entrer dans le plan de Dieu ou de rester dans mes idées, dans ce que moi je veux ? Il y a des données qui nous échappent, mais nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons de toute façon la possibilité d'être délivrés des œuvres du diable. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il faut donc, mes frères et sœurs, regarder au-delà du visible et du temps présent. Et quand Mardoché fait ce qu'il fait, il regarde au-delà. Il ne regarde pas ce qu'il voit. Il fait ce qu'il a à faire devant Dieu avec humilité. Il s'oppose à cette imposture quelque part, si je puis me permettre. Mais il regarde à l'invisible, à l'avenir. Et on verra au fur et à mesure. On connaît l'histoire, mais on va voir des points importants. Mais l'avenir pour Israël, à ce moment-là, va être un temps de bénédiction, un temps de délivrance, un temps de secours. Mes frères et sœurs, il en est de même pour l'Église. Il va venir un moment donné, il va y avoir un temps de délivrance, un temps de secours. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Mais avant qu'il revienne, il y a un temps de secours, un temps de délivrance, un temps de réveil pour l'Église présente, locale, même Groyer. Même Groyer. Groyer. Juste ça, entre nous. Si je me trompe, vous me le dites. Hein. Groyer. Il paraîtrait que ça veut dire grenouille. C'est ça? Même dans une ville qui s'appelle Grenouille. Même dans une ville où, quand les gens ne la connaissent pas, ils sont beaucoup à ne pas la connaître, au lieu de dire Groyer, ils disent Grolé. Alors je leur dis merci beaucoup. Même là, une ville grenouille, Dieu veut la bénir. Amen. Hein? C'est pas Paris, c'est pas Bordeaux, c'est pas Montpellier, c'est pas Lyon. Vous savez, on voit toujours les grosses métropoles. Hein? C'est Groyer. Alléluia. Je veux te bénir et te rendre grâce, Seigneur. Merci de m'avoir aidé, malgré ma fatigue, aidé à porter le message pour cette fin d'année 2017. Je ne sais pas comment c'est tombé dans les cœurs, mais je sais une chose, c'est que de toute manière, le Saint-Esprit saura prendre la suite pour continuer le travail qui s'impose. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs et tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous parce qu'ils sont malades. C'est une période un peu difficile pour quelques-uns également. Mais mon Dieu, je te supplie vraiment de faire éclater ta gloire. L'humilité précède la gloire. C'est pas seulement la nôtre, Seigneur, non. Comme disait le psalmiste, non pas à nous, mais à ton nom donne toute la gloire. C'est la tienne que nous voulons voir briller dans notre maison, dans notre cœur, dans l'église locale de Groyer. Seigneur, merci de renouveler mes frères et sœurs, physiquement, moralement, spirituellement, dans tous les domaines. Et que mes sœurs, mes frères, puissent, je le demande encore, Père, et je le demanderai encore, voir la gloire qu'est la tienne, la gloire du Père, la gloire du Fils, la gloire du Saint-Esprit. Amen. Amen.